rocío en las manos, rocío, agua del cielo, tierra mía y sola, la inmensa marea, las estrellas hoyes. No dejes sediento al árbol que tanto te ama. Lo que fue, fue para siempre. Lo que queda son las raíces. No dejes sediento al árbol que tanto te ama.
Bicyclette à Marinette, la belle, la traîtresse avait acheté une auto. Avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru tout chose au rendez-vous de Marinette, la belle disait je t'adore à un sale type qui l'embrassait. Avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru brûler la petite cervelle à Marinette, la belle était déjà morte d'un rhume mal placé. Avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru lugubre à l'enterrement de Marinette, la belle, la traîtresse, était déjà ressuscitée. Avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con.
Ce fut un petit matin pâle, timide au coin d'un soupirail, qui ferma de sa main d'opale mes yeux comme un frêle éventail. Malgré les coups et les tortures, dans la besace des douleurs, l'espoir et l'amour qui perdurent mêlent le pire et le meilleur. Mais pourquoi pleurez-vous, mes sœurs? Le vent que l'espoir a fait naître, il chante comme un berger, comme une fille à sa fenêtre, comme une oasis oubliée. Ce vent qui me berçait naguère, je crois qu'il est devenu fou. Il dit qu'aujourd'hui comme hier est revenu le temps des loups. Moissonneurs, et seuls les coquelicots fanés font couper le de leur malheur. Persistent les chants et les rires, les mots d'amour carillonneurs, garder en soi le goût de vivre malgré la honte et les violeurs. Mais pourquoi pleurez-vous, mes sœurs? Le vent que l'espoir a fait naître, il chante comme un berger, comme une fille à sa fenêtre, comme une oasis oubliée. Ce vent qui me berce naguère, je crois qu'il est devenu fou. Il prétend que nos pères, nos frères voudrait nous faire vivre à genoux. Qui saura lorsque le soir tombe charmé mon ombre de sommeil. Des doigts ont écrit sur ma tombe, morte pour un nouveau soleil.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste sur 89.4 FM, dans quelques millièmes de seconde, le Ferré Club.
Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération Anarchiste.
Le Ferré Club, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, entretien avec l'écrivain Patrick Péchereau.
La Radio Libertaire, 89.5.
Oui.
Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean. Et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est batte, ça va tout seul. Quand elle est moche, on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis l'on sort. On va griller une cigarette. L'amour, ça se prend et puis ça s'achète. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout, c'est jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul, qu'on ait été chouette ou tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime. Et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans.
Léo dit qu'à 20 ans, pour tout bagage, on a sa gueule, qu'elle cause des fois quand on est seul et que c'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Que ça fait parfois un de ses boucans. De ce boucan, certains, qui s'appellent Léo par exemple, tirent des chansons. Certains autres, qui pourraient s'appeler Charles ou Arthur, tirent de la poésie. Et d'autres, peut-être, avec cette voix du dedans, tirent des romans. C'est peut-être votre cas, Patrick Péchereau. Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir.
Ravi d'être parmi vous.
Et j'ai envie de dire bienvenue à la maison, puisque on va peut-être en dire un mot plus tard. Vous connaissez pas mal ces ondes, d'après ce que vous m'avez dit.
Oui, c'est une maison que j'ai pratiquée en invité, et puis dans une autre vie, en... Comment on dit, en animateur, je sais pas.
Bah oui.
Hein, oui, en animateur.
Ouais, en animateur. On en dira peut-être...
D'une émission, pas de la maison.
On en dira peut-être un petit mot à la fin, éventuellement, si vous êtes d'accord, ou quoi qu'on peut le dire tout de suite, vous avez animé pendant quelques temps l'émission Civis Pacem.
Voilà, pendant plusieurs années, c'était dans les années 80-90.
Émission emblématique de la grille de la radio, émission de l'Union Pacifiste de France.
Voilà, le fait qu'elle soit emblématique, ça ne me rajeunit pas du coup, parce que ça veut dire qu'elle est très ancienne.
Oh oui, mais enfin, je pense que ouais, c'est vrai, mais comme il y a quand même beaucoup de changements au sein de la grille, c'est vrai que celle-ci perdure et grâce à des bénévoles qui se succèdent les uns après les autres, et donc elle permet à cette émission de perdurer, donc effectivement ça reste une émission assez emblématique. Vous êtes écrivain, romancier, je peux vous présenter comme ça ?
On peut.
D'accord. Je vous reçois pour parler, bien évidemment, de Léo, puisque c'est le sujet de l'émission. Et nous parlerons également d'un roman intitulé « Pour tout bagage ». Pour tout bagage, titre éminemment féréen s'il en est, un ouvrage dans lequel Léo est largement présent. Mais ma première question découle un petit peu de cette introduction que je viens de faire. Finalement, je vous pose la question, est-ce que pour vous, écrire participe d'extérioriser cette voix du dedans ?
Ah oui, complètement. Oui, oui, c'est... Et souvent même ce qu'on ne parvient pas à dire avec des mots, parce que dans la voix, il se passe quelque chose qui est souvent filtré par la pudeur. On tente de le dire avec des mots, mais qui ne sont pas oraux, qui sont écrits. Voilà, quand on est un peu introverti, ça passe par l'écriture, bien sûr.
D'accord. Donc il y a quand même
la
de
voix
ça.
Du dedans sort.
La voix du dedans sort à travers votre plume.
Oui.
D'accord. On va donc parler dans cette première partie de Léo, et je voudrais savoir comment est-ce que l'œuvre de Léo est entrée dans votre vie.
Moi j'entendais Léo Ferré quand j'étais gamin, parce que ma maman écoutait la radio, elle avait des disques. Alors elle écoutait plutôt le Léo Ferré, on va dire première mouture, Paris Canaille, Joli Môme, voilà, les choses comme ça. Et puis moi j'ai découvert Léo Ferré, je crois vraiment avec l'album Blanc, hein, sur lequel il y avait le tube qui, et puisqu'il en a fait, plusieurs, hein, il en a fait quand même. Mais alors c'était extra, ça devait être. Mais hormis cette chanson, moi j'ai découvert tous les autres morceaux de Léo Ferré. C'est un album magnifique. Et il est entré dans ma vie, oui, à ce moment-là. Donc je me suis procuré quelques albums d'avant, et puis bien sûr ceux d'après que j'ai suivis pendant un certain temps. Et puis j'ai été voir Léo Ferré en concert moult fois.
On va en dire un mot.
C'est ça, voilà, ça collait complètement à l'adolescent que j'étais à l'époque.
Vous parlez de ça d'un point de vue politique peut-être, ou d'un point de vue poétique, ou de quel point de vue, ou peut-être point de vue amoureux?
Les deux, poétique et politique, c'est presque comme le film de Godard, le film Paul, poétique, politique et policier. Poétique et politique, oui, poétique, parce que c'était une force des mots et une force dans l'interprétation qui vous cueillait, qui vous scotchait, quoi. Et puis politique, parce qu'effectivement, à cette époque-là, c'est les idées qu'il exprimait autour de l'anarchie correspondaient à ce que moi je ressentais et à ce que je pensais. Oui, donc c'était, pour toutes ces raisons, ça a été un grand choc, Léo Ferré. C'était, on s'imagine pas aujourd'hui, les plus jeunes s'imaginent pas que... alors il y a encore un mot galvaudé qui est le mot icône, mais c'en était une. Hein. Regarde-moi bien, je suis une idole, chantait-il. On employait à l'époque le mot idole, voilà. C'était,
bien sûr.
Et c'en était une.
Et donc vous avez découvert son œuvre depuis l'album Blanc, succession d'albums. Alors en plus non pas des moindres, quoi. Après l'album Blanc, c'est Amour Anarchie, c'est La Solitude. Bon, c'est quand même des choses. Assez costaud,
oui,
quoi, qui voilà. Se présente après.
Et puis il y a eu le double live à Bobino.
Bien sûr, aussi.
C'était quand même un grand moment aussi. Oui, où là on sent quand même le côté, tout ce qu'il pouvait représenter, on le sent à travers les applaudissements du public et qui interrompt les chansons pour applaudir en plein milieu ou des choses comme ça. Oui, c'était très chaud.
Oui, bien sûr. Et puis en plus, en 69. Ça tombe tout le sens, on est très peu de temps finalement après 68, et donc il y a quand même encore l'énergie de 68 qui se sent dans cette salle, hein, forcément, quoi. Et donc, parmi ces découvertes, sur tous ces albums qui vont se succéder après l'album Blanc, est-ce qu'il y a des choses qui vont particulièrement vous marquer dans cette découverte au fur et à mesure ?
Après, ce qui m'a beaucoup, hormis le double album qui est sans doute, enfin le live, qui est peut-être celui que je réécoute le plus. Puis il y avait cette complicité avec son pianiste, avec Paul Castagnier. Voilà. Je suis moins allé voir Léo quand il passait avec ses bandes magnétiques. Quoi. J'étais un peu un nostalgique de la. Du Léo avec Castagnier qui savait un peu tout faire au piano, hein. Donc évidemment Amour Anarchie m'a beaucoup marqué.
Ouais.
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. Oui, vous avez vu Léo en sur scène dans la période Popol, donc c'est oui. Quand même complètement différent de ce qu'il faisait après. Ouais, bien sûr, quand il était tout seul. Et donc du coup vous aviez du mal à aller le voir une fois Popol parti.
Oui, j'avais plus de mal parce que je trouvais que les bandes magnétiques donnaient. Il y en avait un autre qui faisait ça que j'aimais bien, qui est parti. C'était pas du tout le même genre, mais qui est parti très vite d'une maladie fulgurante. C'était Herbert Pagani, qui passait avec des bandes comme ça parce que sur ses chansons il y avait énormément de bruitage, il y avait des collages de sons, des choses comme ça. Ce qui n'était pas le cas chez Ferré. Donc je trouvais que ça donnait un côté très très calibré à son tour de chant, parce qu'on peut pas, bouger quoi que ce soit lorsqu'il y a une bande magnétique. Un pianiste, même, il va vous rattraper s'il y a quelque chose que vous avez loupé, ou il va enrober votre voix d'une certaine façon. La bande magnétique, elle est là, elle est beaucoup plus froide. Hein, et puis ça restitue le côté disque. Et j'ai tendance à... Enfin, moi, je préfère quand la scène... justement n'est pas la copie conforme du disque, et qu'elle apporte un plus, quoi.
Ça a tendance à figer un peu les choses,
oui,
les bandes,
oui,
les
ça
bandes
a tendance
d'orchestre.
À figer les choses, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et puis je me disais au fond de moi, mince, il y a quand même des musicos qui ont plus de boulot là.
oui bien sûr, je pense que c'est la difficulté aussi de réunir tous les gens qui n'étaient pas simples après.
Ben après, quand il a fait beaucoup de symphoniques, c'était un peu compliqué.
Encore hein, de surcroît, de, bien voilà. Sûr. Ouais, bien voilà. Sûr.
Et je ne l'ai jamais vu, par contre, dans ses derniers concerts.
Ah oui.
Alors, je ne sais plus s'il utilisait encore les bandes magnétiques ou s'il était seul au piano.
Les deux, mais aussi les bandes, ouais. Pour certaines chansons incontournables, pour ouais. Lesquelles l'orchestration ouais. Aurait vraiment fait défaut, quoi. D'accord. Dans les différentes thématiques que Léo va j'allais dire exploiter, mais le mot est affreux, surtout d'un point de vue politique, pour le coup, mais dans lesquelles Léo va s'épanouir, en fait, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des thématiques en particulier qui vont vous être chères? Est-ce que c'est les chansons politiques auxquelles vous allez être particulièrement attentif, ou toutes les autres, vous prenez tout?
Ah, quand je l'ai découvert et que j'allais le voir à la Mutualité ou des choses comme ça, j'attendais les chansons politiques, évidemment, hein, et je faisais partie de la petite bande qui attendait les bons moments pour y aller des bravos.
Ouais, quand même.
Après, c'était plutôt d'autres types de chansons, des chansons plus mélancolique, mais ça, il savait y faire sur la mélancolie. Je suis plus amoureux de ces chansons-là. Il y a des chansons très politiques, alors je parle pas des anarchistes ou ni Dieu ni maître ou des choses comme ça, mais il y a des chansons politiques que je trouve aujourd'hui qu'on peut difficilement écouter, parce qu'on sait plus à quoi ça, on sait plus à quoi ça correspond. Quand il faisait, par exemple, la liste, j'ai un trou de mémoire, c'est la Révolution, je crois, où il faisait la liste de tous les ministres corses.
Ouais.
Voilà. Donc aujourd'hui, ça, voilà, c'était dans l'instantané, ça parle plus trop, quoi. C'était
ouais,
des chansons de chansonniers, hein, et pas trop de poètes. Et moi, j'ai une grande tendresse pour certaines chansons. Une de mes préférées, c'est À toi. Ouais.
À toi.
Ouais, ouais.
D'accord.
Je trouve que c'est une des plus belles. C'est une de celles qui me touche le plus, en tous les cas. Ouais.
D'accord.
Ou Le Testament. Ouais.
Et mais vous croyez pas que le fait que les noms des ministres corses, Sanguinetti ou ouais. Je sais plus lequel c'était, vous croyez pas que ce procédé, on peut aussi, finalement, on entend cette succession de noms, on se doute à peu près de leur fonction et de leur rôle à l'époque, puisque Léo le dit à moitié entre les mots, on peut aujourd'hui transposer sur d'autres, sur des personnages plus actuels peut-être aussi.
Ah, c'est possible aussi, bien sûr, mais...
Parce que c'est dans l'idée que ça a vieilli, parce que les noms ne sont plus on ne sait plus qui oui. C'est aujourd'hui, mais en revanche, on voit à peu près le procédé.
Ah oui, tout à fait, mais il n'empêche que je trouve que c'est un peu daté, y compris dans le... y compris dans le procédé. Voilà, c'est pas mon Léo favori, quoi. Je veux dire, c'est tout. Hein. C'est,
ouais, bien sûr.
C'est ça parle à ma sensibilité. Moins que d'autres chansons.
Hein. Bien sûr. Alors vous me citez À Toi parmi les chansons qui sont encore fermement dans votre cœur. Donc là pour le coup c'est pas une chanson politique, c'est vraiment une chanson d'amour.
Ah c'est une chanson d'amour. Alors il y a quelques messages subliminaux. Il y a le vent du large et des bûchers pour les clôtures. Les gens de bien qui ont désintégré l'atome.
D'accord. Donc oui effectivement.
Des choses comme ça. Mais c'est plus ce type de message. Alors on va dire politique entre guillemets parce qu'il faudrait s'entendre sur le mot. Que j'aime entendre parce que ça passe par un langage poétique et puis parce que ça fait appel aussi à des non-dits, voilà, des petites choses comme ça qu'on lâche et qui sont pas des vérités assénées.
Ouais, bien sûr. C'est aussi un peu une manière d'ajouter de la tendresse à la démarche politique, quoi, finalement, quoi.
Oui.
Et vous croyez pas que c'est une particularité des anarchistes par rapport à d'autres courants politiques de savoir ajouter un peu de tendresse aux choses?
Oh, j'espère que l'être humain en général est capable quand même d'ajouter un peu de tendresse à beaucoup de choses. Je n'irai pas jusqu'à dire que tous les anarchistes sont capables, à contrario, d'ajouter de la tendresse à quoi que ce soit, mais peut-être ils sont capables de l'entendre.
Mais disons que je vois peut-être davantage de tendresse. Bon, alors c'est un point de vue subjectif, alors pour le coup, je vois peut-être davantage de tendresse justement. Chez les anarches, chez les maoïstes, par exemple. Ou chez les trotskistes de Kronstadt, quoi, par exemple. Enfin, je sais pas, c'est pour...
Ben, les maoïstes, c'est... Voilà, eux, il n'y en a même plus un sur 100, enfin, j'espère. J'espère.
Ouais, je crois aussi, ouais. Je pense
et ceux qui l'étaient ont effacé souvent les photos d'époque.
Ouais, vous croyez, ouais.
Oui, je pense.
Parce que ça n'assume pas.
Non, mais c'est curieux, c'est chez ceux qui l'étaient, cette façon que certains ont aujourd'hui, quand ils ont viré leur cutie, je dirais presque, heureusement qu'ils sont pu rester Mao, quand même, mais quand ils sont passés complètement de l'autre bord, de continuer à vouloir donner des leçons comme ils en donnaient quand ils étaient à l'époque Mao, sans se rendre compte qu'ils ont donné des leçons sur des horreurs, et ça devrait les rendre un peu plus modestes ou un peu plus discrets, quoi. Mais non, voilà.
De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise. Rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant du midi, c'est par un ciel d'automne attiédi, le bleu fouillis des claires étoiles. Car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance, seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps. Puis du plus loin, la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur et tout cet ail de basse cuisine. Prends l'éloquence et tords-lui son cou et tu feras bien en train d'énergie de rendre un peu la rime assagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où? Oh, qui dira les torts de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime de la musique encore et toujours, que ton verre soit la chose envolée, qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux, à d'autres amours. Que ton verre soit la bonne aventure éparse au vent crispé du matin, qui va fleurant la menthe et le thym, et tout le reste est littérature, et tout le reste est littérature.
Le Ferré Club, un peu de littérature aujourd'hui avec Patrick Péchereau. Je voudrais peut-être creuser un petit peu davantage sur les chansons qui vous sont chères. Il y a une chanson qui revient régulièrement dans le livre Pour tout bagage, Patrick Péchereau. C'est la chanson Comme une fille, qui est une chanson pour le coup très politique, avec ces pavés que la maréchaussée se prend, ouais, sur la binette. Donc c'est une chanson, celle-ci, est-ce que par exemple c'est une chanson qui vous habite encore? Est-ce que...
Ah non, j'ai adoré cette chanson quand j'avais 15, 16, 17 ans. Oui, bien sûr.
Elle correspondait à l'époque?
Elle correspondait à l'époque, oui, ouais. Oui. Aujourd'hui non, parce que y a chez moi, avec toute l'affection, l'admiration et la tendresse que je peux avoir pour Ferré, il y a chez moi un côté beaucoup plus Brassens que Ferré.
D'accord.
Donc Brassens, dans plusieurs de ses chansons, moi dont le cri de guerre fut toujours mort aux vaches, plus une seule fois je n'ai pu le brailler, dit-il, parce que dans sa chanson L'épave, il est raide mort, ivre mort sur le trottoir, et que tout le monde vient lui prendre un morceau de ses habits, et qu'à la fin il est tout nu, et que c'est le flic qui vient le couvrir avec sa pèlerine, quoi. Et voilà, et je préfère ça, donc rappeler qui dit mort aux vaches, mais que voilà, il y a toujours quelqu'un qui vient, qu'on peut pas globaliser comme ça, quoi. Bien je sûr. Trouve. Et donc, comme une fille, la ruse des habits, les pavés s'entassent et les flics qui passent les prennent sur la gueule. Voilà, ça sonne bien, ça sonne très bien.
Clairement.
Mais je dirais, voilà, philosophiquement, j'y suis beaucoup moins attaché aujourd'hui.
D'accord. Pour finir sur Comme une fille, justement, dans le Bobino 69, il y a une véritable ferveur au moment où Léo clôt carrément le peut-être pas, c'est peut-être l'avant-dernière, mais il la chante en dernier. Là, pour le coup, il y a une ferveur incroyable dans la salle.
Ah bah puis à l'époque, je devais y aller aussi, de mes applaudissements.
Ouais, bien sûr. Vous y étiez à ce Bobino?
Non, j'ai été plus tard. Celui-là, non, j'étais pas.
D'accord.
Non, j'étais pas. J'ai vu Ferré avec Zou, j'ai vu avec Glenmore, j'ai vu.
Oui, vous le citez tout seul, bien sûr Glenmore dans le. Non. Alors, si je comprends bien, enfin, je comprends pas très bien en général, mais là, je vais essayer de faire un tout petit effort. L'anarchisme, j'aime pas ce mot anarchisme, mais l'anarchie de Léo correspondait peut-être davantage au Patrick Péchereau des années 70 ou 80, et l'anarchie peut-être plus tendre de Georges Brassens, et celle finalement avec laquelle vous composez le plus aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. J'aime bien cette façon de regarder les gens chez Brassens, même la messe au pendu. Où il parle de ce curé qui bénit les oiseaux et qui dit la messe pour ceux qu'on a branchés, qu'on a accrochés aux arbres. Mmh. Et des choses comme ça, je pense qu'on peut pas vivre dans des tranchées, quoi, et qu'à un moment il faut aller toucher un peu le cœur de l'autre au-delà de ce qu'il représente.
Écoutez, Léo, c'est vivre dans les tranchées?
Ah ben non, pas
non.
Du tout.
Ah bon, d'accord,
non,
d'accord.
Mais de faire de ce qu'il chante une espèce de ligne directrice, oui, c'est d'abord avoir un maître. Et puis là, avoir peut-être aussi des œillères. Il y a des gens qui aiment tellement quelqu'un qu'ils l'adulent comme une idole. Ils l'adorent, ils l'adulent. Et la moindre critique est prise comme... comme je sais pas quoi, comme une agression. Or, je pense qu'on peut tout critiquer. Moi, oui. On peut me critiquer, on peut critiquer n'importe quoi.
Y compris Léo.
Y compris Léo, ou certaines de ses chansons. Voilà, mais...
Bien sûr, aucun souci.
Tout à fait. Et Dieu sait si je l'ai écouté, et que je le cite même assez souvent. Dans plusieurs bouquins, j'ai commencé par des citations de Léo Ferré, ouais, il y en a mon livre Belleville-Barcelone qui parle de la guerre d'Espagne commence par et des armes rouillées pour ne pas oublier, et des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Ça j'aime bien parce qu'il y a les couteaux pour trancher le pain de l'amitié. Voilà, j'aime bien quand les couteaux tranchent le pain de l'amitié.
Plutôt que des gorges.
Plutôt que d'égorger, oui.
Ouais.
Oui, je suis un assez piètre égorgeur dans l'ensemble.
Bon, bah écoutez, ça tombe bien parce qu'on est vraiment que deux dans le studio, donc ça m'arrange. Mais oui. Mais en fait, j'aimerais bien, juste pour terminer sur peut-être cette différence entre l'anarchie de Léo et l'anarchie de Georges Brassens. Au moment où je vous interroge sur la différence qu'il peut y avoir entre les deux approches de l'anarchie de chacun, vous me parlez quand même, quand vous citez Léo, un peu enfin, on est venu au fait de ne pas pouvoir critiquer les choses. Vous trouvez qu'il y a quelque chose de plus absolu dans la démarche anarchiste de Léo que dans celle de Georges Brassens, peut-être ?
Oh, absolu, non, mais peut-être, je vais employer une expression qui n'est pas celle que je voudrais employer, donc là je meuble un peu pour essayer d'en trouver une autre, mais peut-être donneur ouais. de consignes. Il affirme souvent des vérités où il donne des consignes, voilà ce qu'il faut faire. Hein. Brassens fait pas ça.
Et vous croyez que ces consignes-là résonnent davantage dans les oreilles d'une personne plus jeune, d'une vingtaine, d'une trentaine d'années, et peut-être que un peu moins après ?
Oh, je sais pas, chacun a sa sensibilité, mais c'est vrai, quand on a entre 15 et 20 ans, on a les hormones à fleur de peau, quoi. Donc, en plus, tout ce côté très flamboyant qu'il avait, hein, ça résonne beaucoup plus quand on va voir Ferré sur scène que quand on va voir Brassens. Je veux dire, il faisait un show pas possible, Ferré. Il était très, très écorché, il en rajoutait. Voilà, les deux qui faisaient le plus gros show, c'était lui et Brel. Et donc tout ça emporte quelqu'un de très jeune, parce qu'on s'identifie très vite à ce qui est presque, je dirais pas excessif, c'est pas le mot non plus que je cherche, hein, le rhume m'embrume un peu, mais tout ce qui est à fleur de peau vous parle beaucoup plus. Après on a le cuir plus épais, donc tout ce qui est à fleur de peau, il y a des choses qui glissent davantage, mais quand on est jeune, on va chercher les émotions un peu extrêmes.
Un peu coup de poing.
Un peu coup de poing, oui. Mais moi, j'allais voir Léo comme j'allais voir un concert de rock presque. Hein. C'était de la chanson. Et j'aimerais qu'on en écrive encore des comme ça. Je fais pas le vieux con qui regrette le temps passé. Hein. Il y a de très très beaux textes aujourd'hui, mais voilà, c'était quand même quelque chose de très très balèze et qui était exprimé avec cette espèce de force et puis en plus avec la silhouette qu'il avait à partir des années 68, là, ces tifs qui flottaient, à un moment il s'est mis son perfecto, voilà, donc il y avait ce côté un peu star écorché qui vous emporte facilement quand on est très jeune. Je veux dire, moi je sortais des concerts de Léo Ferré, j'aurais défié la terre entière.
Et quand vous avez vu Georges Brassens également?
Oui, j'ai vu moins souvent Brassens.
Et quand vous sortiez des concerts de Georges Brassens, est-ce que vous auriez défié la terre entière?
Non, c'était pas pareil. Non, du tout, c'est deux tempéraments complètement différents. Je crois qu'ils se rejoignent sur un point, c'est que dans la planète anarchie, c'est deux individualistes quand même. Sur scène, c'était une tornade, Ferré. C'est marrant de dire ça, parce qu'en fait, il bougeait pas beaucoup. Hein. Il était très statique derrière le micro, quelques gestes de la main, Et il vous emportait comme une tornade. Brassens, c'était pas ça. On avait l'impression d'aller retrouver le vieux pote qui vous chantait un truc pour vous, puis il parlait pas, je veux dire, il causait pas sur scène. Ouais.
Il faisait ses chansons et il ne rajoutait pas.
C'était complètement... complètement différent. Alors j'ai entendu dire de Brassens qu'en fait il aimait pas la scène, qu'il était timide, et puis j'ai entendu le contraire en disant non, en fait ces trucs de timidité c'était très calibré, tout ça, donc je sais pas. Mais il donnait plutôt l'impression quand même d'être là, voilà, un peu pour faire plaisir au public et parce qu'il fallait, il fallait être sur scène qu'autre chose.
Alors que Léo se donnait davantage.
Ah, Léo, il se défonçait complètement sur scène. Ah oui. Enfin, en tous les cas, s'il ne se défonçait pas, il était très bon comédien. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il était très bon comédien.
Aussi, mais il y avait quand même de la sincérité dans la démarche.
Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait, ouais.
Alors, ces concerts, parce que, mis à part Bobino, j'aimerais bien, peut-être, si vous pouviez, si vous avez des souvenirs comme ça, particuliers de moments, peut-être, ou de chansons, d'interprétations.
Ah oui, j'ai souvenir de son concert avec Zou, qui à l'époque était un groupe de rock qui ne dit plus rien à personne, mais qui l'accompagne sur disque. Donc j'ai souvenir de ça. Alors par contre, c'est curieux, je ne me souviens plus du lieu, c'était Bobino, la Mutualité. J'ai souvenir, en plus j'avais 42 fièvres, j'avais la craie. Je m'étais tapé un litre de vin chaud à Saint-Lazare avant d'y aller, donc je transpirais à grosses gouttes et Ferret en a rajouté dans la transpiration, quoi. Oui, tout à fait. C'était sa période. Il voulait être rock ou pop. Il y a une chanson qui s'appelait Les Pop. Voilà, Les Pop. Il voulait être. J'ai lu récemment, mais je ne sais plus où. Peut-être c'est sous la plume de Josiane Sauvard, mais je ne suis pas sûr. Qu'une des dernières soirées qu'aurait passé Jim Morrison à Paris était avec Léo Ferré, mais
d'accord.
Je ne sais pas si elle faisait partie d'un récit un peu fantasmé ou si c'était la réalité, quoi.
Je peux malheureusement pas vous dire.
Et donc il y avait ce concert-là, il y avait eu les concerts avec Glenmore, parce que là c'était dans le genre flamboyant les deux.
Alors moi, je vous avoue, je ne connais pas du tout Glenmore.
Ah, Glenmore, c'était un chanteur, c'était le bar de Breton des années 60, 70, 80, je ne sais plus quand il est mort. Et un jour, Ferré est venu chez lui, après avoir écouté une chanson, je ne sais plus laquelle. Il est descendu dans la maison de Glenmore, il a frappé, et il a dit « C'est vous qui avez écrit ça ?» Et voilà, ils se sont... Ils se sont entendus et ils ont décidé de faire une tournée ensemble. Y a une photo qui est dans un album de Ferré, ou c'est peut-être un album de Glenmore. Ouais, c'est un album de Glenmore, où ils sont tous les trois, parce qu'il y a la femme de Glenmore qui s'appelait Cattell, enfin qui s'appelle toujours Cattell, parce que maintenant elle fait des spectacles, notamment pour enfants. Et ils sont à table, tous les trois. Et là, c'était complètement électrique, parce que déjà, il y avait le Ferré, lui, il passait en deuxième partie, Ferré. Hein. Glenmore assurait l'ouverture. Alors, Glenmore, c'était l'indépendantiste breton par excellence. Donc déjà, il y avait les Guenadus partout, et ça chauffait terriblement. Et puis après, il y avait Léo Ferré, donc là, il y avait du drapeau noir qui venait s'ajouter aux Guenadus, et là, ça chauffait doublement. Donc j'avais emmené ma maman voir Ferré et Glenmore en Bretagne.
Parce que vous êtes breton ?
Pas du tout, non, mais j'ai un grand attachement sentimental avec la Bretagne. Et elle qui écoutait plutôt le Léo Ferré de Paris Canaille, de Joli Mot, mais ça l'avait un peu secoué quand même.
J'imagine.
Elle l'avait un peu secoué, oui. Oui, ça c'est deux concerts qui m'ont marqué. Et puis les concerts de Léo, il y avait des chansons qui me donnaient la chair de poule. Vraiment, à toi j'en ai parlé, mais cette chanson ne cesse de me donner la chair de poule. Même si je mélange parfois les paroles de « À toi » avec le « Avant de passer l'arme à gauche, avant que la faux ne me fauche, tel jour, telle heure, en telle année ».
Le testament.
Le testament. Les phrases comme le cheval et le petit sac, comment il dit Oh zut, ça
ne vient pas. Aider, ça ne me vient pas non plus. Dans « À toi »
Alors je ne sais plus si c'est « À toi » ou le testament, celle-là.
Oui, pour le coup, du coup.
Ouais. Et là aussi, il y en a une où il parle du remords amical du prêtre qui confesse. C'est beau, ça, le remords amical du prêtre qui confesse, des choses comme ça. Et là, il y a de la tendresse très très forte là-dedans. Ouais. Très, très forte. Ouais.
Alors que
alors que les curés, il avait toutes les raisons de ne pas les aimer.
Voilà. On est d'accord, quoi, malgré tout, quoi.
Voilà, mais... Non, c'est... Et puis, le Printemps des Poètes, c'est des chansons qui me donnent la chair de poule. Mmh. Et oui, c'est ça, monsieur, le Printemps des Poètes. Déjà, ce « Et oui, c'est ça, monsieur, le Printemps des Poètes », voilà, 20 ans. Alors ça, c'est... Qui est-ce qui vibre pas à 20 ans, quand justement, on a presque 20 ans.
Ouais, voilà. Bien sûr.
Voilà. J'ai un ami qui, par ailleurs, est lui aussi romancier, auteur de Polar, qui s'appelle Pascal Dessin, qui est un grand fan de Léo Ferré. Alors surtout, n'allez jamais manger entre Pascal Dessin et Caryl Ferret, parce que Pascal Dessin et Caryl Ferret sont capables de parler jusqu'à l'aube, l'un tenant Ferré pour le plus grand, Caryl tenant Brel pour le plus grand. Alors là, voilà. Au bout d'un moment, on a envie de dire non, le plus grand, c'est Claude François, histoire de désamorcer un peu le truc.
Faut calmer tout le monde, comme on dit. Ouais.
Et Pascal Dessin, la première fois que j'ai rencontré, c'est à mon premier salon de Polar, il y a très longtemps, donc en 96. Et il avait chanté, je me souviens très très bien, il avait chanté 20 ans.
D'accord.
Et récemment, lors d'un salon, il y a peut-être 2 ans, on a fini la soirée chez Pascal Dessin. Il a mis du Ferré toute la soirée, c'est tout juste si il ne larmoyait pas, et le lendemain, on a passé une bonne soirée. Hein.
La présence de Léo fait du bien, voilà. Pour ça aussi, quoi. Dans les moments d'amitié.
Voilà, tout à fait. Oui. Ah bah, les gens, il conviendrait de ne les connaître qu'à certaines heures pâles de la nuit. Hein.
Bien sûr.
Ça aussi, c'est magnifique.
Bien sûr, bien sûr.
Et là, c'est très beau. Là c'est la tendresse, la désabusion, la face des gens, justement, qui n'est plus la même à certaines heures pâles de la nuit, parce qu'ils ont laissé tomber le masque, et qu'on peut vraiment les rencontrer. Il y a plus le masque social, il y a plus l'uniforme, le costume. Voilà, c'est une heure pâle de la nuit, devant une machine à sous. Voilà, c'est...
Avec des
problèmes de mélancolie. Il y a probablement un petit coup dans le nez, et là, on se lâche. Et M. Richard, le dernier, pour la route.
Pour la route, bien sûr. Ouais. Ouais. Et cette thématique de l'amitié chez Léo, c'est quelque chose qui vous a parlé, par exemple?
Ah oui, beaucoup. Ouais. Oui, beaucoup. Ouais.
Se barre devant la pierre allemande. Quand je nous y revois, des fois je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois.
Richard, ça va?
Si les copains cassaient leur âme à temps pressé, le citron de la nuit dans les brumes pernaux. Si les filles prenaient le temps de dire un mot à cette nuit qui les tenait, qui les berçait. Cette nuit, comme une sœur de charité, longue robe traînant sur leurs pas de bravade, caressant de l'ourlet les pâles camarades qui venaient pour parler de rien ou d'amitié. dans une ennui comme ça, moi et moi, accoudé à ce bar devant la bière allemande. Quand je nous y revois, des fois, je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois.
Richard ! Hé ! Richard !
Les gens, il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit, près d'une machine à sous, avec des problèmes d'hommes, simplement des problèmes de mélancolie. Alors, on boit un verre en regardant loin, derrière la glace du comptoir. On se dit qu'il est bien tard, qu'il est bien tard. Richard, encore un petit pour la route. Richard, encore un petit, vite fait.
Hé, monsieur Richard, le dernier.
Entretien avec Patrick Pécherot aujourd'hui dans
Ferré Club sur Radio Libertaire.
Merci. On va parler de votre livre, si vous voulez bien, de Pour tout bagage. Alors, je vous le disais hors antenne, mais je vais le répéter quand même aux auditeurs et auditrices. Moi, j'ai pas l'habitude d'évoquer des ouvrages de littérature, des romans encore moins. Donc, je ne sais pas doser. Je sais pas ce qu'il faut révéler, des intrigues, etc. Donc, je vais y aller à tâtons, ne m'en voulez pas. Et puis, je vais peut-être y aller de manière peut-être un peu maladroite, parce que, comme je vous disais, je suis pas forcément un grand spécialiste, je suis même pas du tout un spécialiste de parler de la littérature. Donc, je vais parler de ce livre comme je peux, et m'en voulez pas si je le fais maladroitement.
J'ai aucune raison de vous en vouloir.
Alors, ce livre s'intitule Pour tout bagage. Il est paru aux éditions NRF Gallimard. Vous me l'avez fait parvenir, je vous en remercie. Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. J'ai retrouvé des moments, enfin, il y a des moments dans lesquels je me suis vraiment retrouvé, évidemment, parce que Léo est un personnage sous-jacent. C'est peut-être, c'est pas un des personnages principaux, parce que le personnage principal, ça s'appelle Edmond Vuillat. Edmond Vuillat, qui se fait abattre en allant chercher une montre pour un cadeau pour la communion de sa fille, voilà, chez un horloger bijoutier. Il prend une balle perdue tirée par un des membres de la bande du narrateur, un narrateur qui s'appelle Arthur et qui est entouré de différents camarades, compagnons, compagnons,
des copains, des amis, voilà. Les camarades de lycée
qui s'appelle Yvon, Paul, Antoine, il y a également Sylvie et la sœur de Sylvie, Chloé. Et alors ce livre, finalement, se décompose en deux grandes parties. Enfin, en tout cas, moi, dans la lecture, j'ai dissocié deux grandes parties. Une première où, après quelques éléments de contexte, des photos, notamment, qui sortent d'une boîte que Arthur imagine, c'est ça ?
Oui, ou certaines, il les imagine, d'autres, il a vraiment des photos qui traînent quelque part.
D'accord. Donc, il y a cette première partie où on évoque, où il y a une mise en contexte de l'époque, des personnages, assez rapidement. Et puis, il y a donc, dans cette première partie, le récit de cette époque avec les Garis, ce qu'on appelait les Garis. Vous pouvez nous dire un peu ce qu'étaient les Garis ?
Oui, alors les Garis est un groupe qui s'est créé au début des années 70 et qui s'est illustré, c'était groupe, et ben voilà, Révolutionnaire international. Groupe d'action révolutionnaire international.
D'accord.
Qui s'est illustré en 1974 par l'enlèvement d'un banquier espagnol à Paris, qui était directeur de la banque de Bilbao en France ou à Paris, là je ne sais plus trop, pour demander l'arrêt des garrotages en Espagne, puisque Franco sévissait toujours en 1974, on l'a oublié, mais à l'époque la France était quand même entourée de la Grèce des colonels, de l'Espagne franquiste, et le régime portugais, la dictature portugaise n'était pas encore tombée, elle est tombée en 1974. Et puis je ne parle pas des dictatures qu'il y avait de l'autre côté du rideau de fer. Et donc ils ont enlevé un banquier espagnol pour demander l'arrêt des garrotages. Un militant anarchiste espagnol d'un groupe qui s'appelait le MIL, le Mouvement Ibérique de Libération, avait été garrotté quelques semaines auparavant. Le garrotté, c'est la mort par strangulation. Et donc au terme d'une course folle, le banquier a été libéré. Et la particularité des garis, moi j'ai suivi cette affaire en 1974 quand j'étais jeune, c'est que il y avait beaucoup d'expressions qui émanaient d'eux ou de leurs sympathisants qui passaient par des tracts qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, quoi. Ça faisait appel à la bande dessinée, il y avait presque un esprit situationniste, voilà, donc c'était quelque chose qui pouvait très bien les assimiler dans la tête de quelqu'un comme moi à l'époque, avec ils assimilaient à des espèces de Robin des Bois au drapeau noir, quoi. C'était la grande aventure, surtout que le banquier espagnol, ils n'ont jamais fait de mal, ils n'étaient pas dans leur intention, même s'ils ont pu laisser planer des menaces, de lui faire quoi que ce soit. Donc voilà. Et voilà ce qu'étaient les garis. Alors après, ça a éclaté. Certains sont en procès pour cette affaire, mais plusieurs années après. Et puis ça a éclaté, ça a disparu. Certains ont rejoint des mouvements beaucoup plus durs, comme Action Directe, puisque Jean-Marc Rouillon était un des fondateurs des garis. Ah. Et puis d'autres sont restés dans la mouvance anarchiste, mais sans aller dans la voie d'Action Directe, qui était d'ailleurs plus vraiment anarchiste non plus.
Oui.
Voilà. Ce qu'étaient les garis. Et donc ça avait tout pour enflammer des plus jeunes, dont mes héros, qui n'ont qu'un rêve, c'est de faire comme eux, quoi.
Voilà, c'est ce que je vais vous demander. Finalement, c'est sur ce mythe ou cette réalité, parce qu'à l'époque c'est encore une réalité quand même, très concrète, que va se créer le destin commun de cette bande, la bande pas d'Arthur, mais la bande d'Arthur, Antoine, Yvon. Ouais. C'est un peu ça, c'est un peu sur ce mythe fondateur qui va leur donner l'envie, quoi,
de passer à cette action directe qui, en plus, ne se traduit pas par des morts. Je veux dire, c'était pas, les Brigades Rouges, ils tiraient sur, ils jambisaient les gens. Il y avait d'autres groupes en Italie qui assassinaient des gens. Les garis, c'était pas ça. Ils ont jamais tué ou blessé qui que ce soit. Donc, ils ont plastiqué un certain nombre de choses, mais c'était des édifices ou des symboles et jamais ils s'en sont pris à la vie humaine, quoi. Donc ils avaient tout pour faire rêver.
Et en fait, la bande d'Arthur rêve est inspirée par ce rêve des garis, quoi, en fait, un peu.
Ah oui, complètement, ouais, complètement. Ouais. Ils sont fascinés par ce truc. Ils ont l'esprit, ils ont c'est des grands ados, donc voilà, faut que ça bouge, et ça c'est bien, bien. Ils sont un peu perdus au début dans tous les mouvements de l'après 68, et alors là, ça c'est un truc qui va leur parler à la fois à la tête et aux tripes. Donc,
et donc ils se mettent en tête eux aussi d'enlever quelqu'un?
Non, ils se mettent en tête de punir celui qu'il pense avoir dénoncé les garis, voilà.
Alors. D'accord.
Et donc, le punir, mais pas le punir en le tuant ou en le blessant, mais ouais, en lui faisant peur, quoi. C'est-à-dire qu'en le suivant, en tirant sur sa maison, sur sa voiture, voilà. Mais jamais, pour qu'il crève de trouille.
Et donc une arme est achetée dans ce but, et de cette arme va être tirée de manière tout à fait malencontreuse une balle, ouais, qui va se loger dans la tranche
d'un pauvre type qui n'avait rien à voir dans tout ça, et qui ne faisait que passer, aller chez le bijoutier, acheter la montre pour sa fille.
Ouais. Et donc, forcément, cet élément va hanter la vie du narrateur qui s'appelle Arthur. On va très régulièrement dans les pages du livre entendre des moments de discussion entre guillemets entre Arthur et
le fantôme.
Le fantôme, fantôme dont Arthur romance un peu la vie. Il va essayer de lui donner un petit peu de consistance parce que il est rentré de fait dans sa vie, mais finalement vu que c'est pas lui qui était visé. Arthur et ses copains ne savent absolument rien de lui. Donc il faut lui donner peut-être un peu une consistance.
Oui, tout à fait. Donc il l'imagine comme un père de famille des années 70 qu'emmène sa petite fille à l'école, qui habite à Puteau, parce que j'ai placé un certain nombre de passages du roman dans les banlieues qui sont les miennes.
Et voilà. On comprend un peu, effectivement.
et il lui donne cette consistance pour ce qui lui permet de parler presque au fantôme, avec quelqu'un qui est matérialisé par la consistance qu'il lui a donnée, quoi. Vraiment le gars ben ordinaire, comme disait Charlebois.
Ouais, bien sûr. Mais parce que pour le coup, Edmond rentre de manière brutale, forcément, dans la vie d'Arthur, mais c'était absolument pas attendu. Donc ça doit être effectivement très particulier, quoi, d'un seul coup, d'avoir quelqu'un qui rentre dans sa vie, alors que lui n'était pas visé. Enfin,
De toute façon, après, la vie d'Arthur, puisqu'il va rechercher, on va passer sur le truc, mais il va rechercher ses camarades 50 ans après.
Dans la deuxième partie, on va dire.
Va être un chemin de croix du remords, quoi.
Voilà.
Il peut pas se sortir la tête de le meurtre collectif qu'ils ont commis, parce qu'en fait, il s'imagine que le fantôme veut savoir qui a appuyé sur la détente, et il lui dit, mais qu'est-ce que ça peut faire, puisqu'on était cinq, celui qui a appuyé, on était là tous les cinq, donc qu'est-ce que ça peut faire de savoir si c'est un tel ou moi, ou un tel, n'a aucune importance, on t'a tous tué, quoi.
Ouais.
On t'a tous tué, c'est la responsabilité collective qui passe parfois par... Avant le passage à l'acte, qui passe par la prise de décision et avant par les idées qui ont amené à la prise de décision.
Bien sûr. Mais en même temps, c'est Arthur qui lui fait dire qui m'a tué.
Ouais.
Donc, quelque part, l'idée de qui a tué, c'est une projection du psyché d'Arthur sur Edmond, puisque Edmond n'est pas là, quoi. Donc, quand même, malgré tout, cette responsabilité du groupe, mais aussi individuel, enfin la recherche de celui qui a tiré, habite beaucoup Arthur, quoi, le narrateur.
Oui, il se sent coupable, donc pour lui c'est aussi plus facile de dire c'est tout le monde.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc la deuxième partie du livre, après le récit des garis et puis donc l'inspiration que ça peut donner au groupe, la deuxième partie c'est Arthur qui effectivement retourne vers ceux qui sont encore là et essaye de les retrouver.
Voilà. Donc ils ont chacun eu une vie. Après, ils se sont tous séparés tout de suite. Hein.
Ouais.
Donc ils sont partis à droite à gauche et ils se sont plus jamais revus, à part Arthur et Paul, qui se sont un peu revus, quoi.
Ils se sont séparés du fait du drame qui arrivait quand même, quoi. Parce que leur but, c'était absolument pas d'abattre qui que ce soit, et encore moins un innocent qui passait par là.
Ouais.
D'accord. Et donc, finalement, comme je disais, Arthur revient sur les personnages, et puis aller vers ces personnages, c'est aussi pour lui une certaine manière de revenir sur ses idées, sur son engagement, sur peut-être ses positions politiques de jeunesse, sur lesquelles il va peut-être avoir un regard un peu critique.
Alors, il revient sur sa jeunesse. D'où le ferré qui est omniprésent, enfin pas lui, mais ses chansons, puisqu'ils sont même partis en Bretagne à l'îlot du Guesclin, là où Ferré a habité avec Madeleine pendant un certain temps. Ils ont fait leur espèce de pèlerinage à Ferré, donc c'est Ferré, c'est un peu lui qui a contribuer à allumer la mèche. Hein.
Ouais.
Donc, à propos du revolver dont vous avez parlé, je cite une chanson que Ferré n'a jamais enregistrée à ma connaissance, qui est Des armes, mais qui bien était sûr. Parue, si ma mémoire est bonne, dans la rue.
Ah oui, absolument.
Qui était un périodique dont j'ai gardé quelques numéros, j'avoue.
J'imagine.
Voilà, et... Et il va donc rechercher ses quatre autres camarades, plus la petite sœur de Sylvie. Et pendant cette quête, oui, Ferré est omniprésent, parce que c'est vraiment quelque chose qui, avec lequel, quelqu'un avec lequel il a vécu par procuration, justement, avec tout ce que il a pu prendre dans la tronche en écoutant Léo Ferré.
C'est la bande-son de son époque, en fait.
C'est la bande orchestre. Il n'y a pas que ça, parce qu'il parle aussi, il y a aussi Dylan.
Oui, il y en a d'autres, oui. On croise Renaud, le chanteur Renaud.
Le chanteur Renaud, à l'époque, qui faisait la manche dans les cours des cafés-théâtres.
La rue du Temple, voilà, on le croise en 74, alors qu'il n'a pas encore sorti son premier album.
Voilà. Bon, Dylan, avec les rêves un peu de toute cette génération qui fut la mienne, ces rêves des États-Unis mythiques, des chanteurs comme Dylan, de la Beat Generation qui les a précédés, de La Route, de Simon et Garfunkel, des choses comme ça. Donc Ferré était pour une partie de ma génération, je dis une partie parce que je crois pas aux générations à part biologiquement, quoi. Entre un lycéen de Suresnes comme j'étais et un jeune travailleur du Nord, du même âge, et un paysan de la Creuse, il y avait des différences énormes à l'époque. Y compris culturelles, voilà. Énormes. Mais ça fait partie de choses qui m'ont formé, ou des gens qui m'ont formé, et pas que moi. On est tous formés par des morceaux de ceux qui nous ont influencés, qu'il s'agisse de la lecture, de la politique, de la poésie, de la musique, de la chanson, de la peinture. En tous les cas, moi j'ai des bouts de Ferré en moi, j'ai des bouts de Molière en moi parce que j'adore Molière, hein, j'ai des bouts de Camus, je peux avoir des bouts de Monet, des bouts de Dylan, voilà, on a tous des bouts, hein. on se fait avec des bouts, on est comme des arlequins ou comme des mécanos.
Ouais, bien sûr.
Avant de passer l'arme à gauche, avant que la foule me fauche, tel jour, telle heure, en telle année, sans fric, sans papier, sans notaire, je te laisse ici l'inventaire de ce que j'ai mis de côté. La serviette en papier où tu laisses à ta bouche ma mèche de cheveux quand il n'était pas gris, mon foulard, quelques plumes et cette chanson louche avec autant de mots que nous avions de nuit. L'oreille de Van Gogh, la pipe de Balzac, cette armée d'anarchie et ses fanfares blêmes, le cheval qui travaille avec son petit sac, où dorment des prairies d'avoine et de carême. Et de carême. L'enfer de Monsieur Dante, où je descends ce soir un paquet vide de Celtic sur la table, quelques stylos à billes au roulement d'espoir, avec dans leur roulis des chansons formidables, le pick-up du tonnerre et les gants de la pluie, la voix d'André Breton, l'absinthe de Verlaine, les âmes de nos chiens en bouquet réunis et leurs paroles dans la nuit comme une traîne, comme une traîne. Le zinc de ce bistrot, nous perdions nos gueules, cette affiche où nos yeux écoutaient des Bravo, cette page d'annonce où s'ennuie toute seule notre maison avec mes rêves en in quarto. Avant de passer l'arme à gauche, avant que la faune me fauche, tel jour, telle heure, en telle année. Sans fric, sans papier, sans notaire, il est bien maigre l'inventaire de ce que j'ai mis de côté. Mais je te laisse ça comme une chanson tendre, avec ta fantaisie qui fera beaucoup mieux. Et puis ma voix perdue que tu pourras entendre en laissant retomber le rideau si tu veux. Si tu veux.
Le Ferré Club sur Radio Libertaire, entretien avec Patrick Péchereau. Dans ce regard rétrospectif que Arthur porte, j'insiste un peu sur cette dimension, parce que moi, c'est ce que je vous disais hors antenne avant qu'on commence, il y a quand même un regard critique,
oui,
qui est porté.
Un regard déçu, critique. Oui, je pense qu'on voit plus le monde de la même façon quand on a 20 ans, ou en tous les cas, ils les ont même pas les 20 ans. Et quand on en a 70, ce qui est mon âge aujourd'hui, hein, donc on voit plus les choses de la même façon. Il y a des idéaux très généreux qu'on a, et puis voilà, qui s'émoussent. Mouloudji chantait « Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au mur du temps, faut vivre ». Voilà, c'est ça, quoi. Je veux dire, n'avoir que des idéaux, je pense qu'on se condamne à ne jamais les voir arriver, parce que ce qui est idéal n'arrive jamais, quoi.
Ouais.
Donc il est désabusé, on va dire. Il est désabusé.
Un peu.
Il est désabusé un peu de tout, sauf justement de la tendresse. Voilà. Mmh. Il lui reste ça.
Oui, indéniablement, oui.
Il lui reste la tendresse.
Moi, je rajoute très volontiers que c'est aussi pour ça que Léo est là de temps en temps, parce que je vois quand même beaucoup de tendresse chez Léo.
Oui.
Ce qu'on a pu dire sur la différence entre Brassens et Léo.
Ah oui.
Alors, ce regard critique se porte sur ces idéaux dont vous parliez, mais aussi sur le groupe. Finalement, parce que on se rend compte aussi que dans cette quête qui va l'amener à aller retrouver ses anciens camarades, il va aussi se rendre compte que l'unité ou la symbiose du groupe qui pouvait exister à l'époque, finalement, lorsque le groupe se délite, on se demande comment. Peut-être, on a pu être vraiment aussi proches les uns des autres. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de distance qui se crée quand même forcément entre Arthur et ses anciens camarades qu'il va retrouver avec le cap des années qui est passé, quoi.
Oui, mais ça, je pense que c'est le phénomène groupe. Hein. C'est pas un hasard si beaucoup de groupes musicaux... De groupes jeunes, dire qui se sont formés, enfin en tous les cas de ma génération, tous les groupes, à part les Stones qui font maintenant un peu figure de momie, mais ils ont tous fini par se séparer parce qu'au bout d'un moment le phénomène groupe, voilà, on en a un peu fait le tour, on en a un peu assez, il y a des personnalités qui prennent le pas et on retrouve chacun un destin individuel. Je pense que le phénomène groupe chez les jeunes comme peuvent l'être mes héros, c'est aussi un phénomène. On se compose une famille, quoi. Et puis après, on vole de ses propres ailes. Alors là, l'envol est brutal, parce qu'ils sont obligés de s'envoler après avoir tué quelqu'un. Quoi.
Bien sûr.
Donc, je ne sais pas ce qu'ils seraient devenus. Hein. Qu'est-ce que seraient devenus Roméo et Juliette s'ils n'étaient pas morts tragiquement? Est-ce qu'ils se seraient aimés jusqu'à la fin des temps? Ou est-ce qu'ils auraient fini par baigner dans l'aigreur? Ou on ne sait pas, mais en tous les cas, voilà. Qu'est-ce qu'ils seraient devenus, mes cinq loulous, là, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'avec le temps, le groupe n'a plus aucune raison d'exister. C'est ce que j'écris à un moment. On devrait jamais essayer. Alors je sais plus comment j'écris, mais on devrait jamais essayer de revenir sur de retrouver les copains d'enfance, quoi, parce que c'est fini.
C'est fini. Et puis au-delà de fini, il y a aussi l'idée peut-être qu'on se demande comment est-ce qu'on a pu être copains avec eux quand on voit ce qu'ils sont devenus. Parce que je pense notamment au personnage de Paul. Paul, qui fait donc partie de la bande, qui est habité par cette envie ou par cet élan révolutionnaire, ou en tout cas, peut-être quasiment insurrectionnel, mais avec de la tendresse quand même. Là, je vais un peu loin dans l'usage du mot insurrectionnel, mais on retrouve Paul lorsque Arthur va vers lui. Arthur retrouve Paul derrière Mitterrand. Oui, il le retrouve en tant qu'encarté. Oui. Et il dit, il y a cette phrase que j'aime beaucoup, l'anarchie effacée comme une cuite.
Ouais. Ça arrive, hein. Ça arrive.
Malheureusement.